Moussa Diakité. Allô, Moussa? Moussa? Ah, on a perdu Moussa. Alors, Moussa...
Allô, je vous entends.
Je voulais savoir de quel pays vous êtes.
Je suis du Mali, Bamako.
Bon, est-ce que c'est la situation? Est-ce qu'au Mali... j'imagine et je sais que la majorité est musulmane. Est-ce qu'on interdit aux autres, aux chrétiens, animistes ou tout ce que vous voulez, de pratiquer leurs croyances?
Bon, quand on prend le Mali, le cas du Mali, bon, c'est un cas un peu particulier par rapport aux autres États, parce que le Mali, les deux religions, chrétiennes ou islamiques, c'est entré dans la culture malienne un peu, dans certaines localités, mais dans certaines localités aussi, ça prend d'autres images, comme quand on prend à Sanogo et Tombouctou, les chrétiens se sentent un peu minimisés à l'écart de la société.
Merci Moussa. Alors, merci beaucoup Moussa. Alors, nous tournons vers Fidel. Mariam, je vous passerai tout à l'heure la parole pour savoir, puisque vous-même vous êtes du Mali et donc vous pouvez commenter mieux que moi sur ce que vient de dire Moussa Diakité. Alors, Fidel, qu'en est-il dans le reste de l'Afrique?
Du point de vue, d'abord, comment est-ce que ces rapports arrivent? Ça doit être tout un système, un gouvernement qui décide. Par exemple, le cas que notre ami est en train de citer, ce ne sont pas des cas isolés, c'est un cas systémique. Le gouvernement vient avec des lois. Quant au reste de toute l'Afrique, ce rapport ne mentionne pas tellement beaucoup. Le cas de Boko Haram est un cas que nous pouvons citer. Comment est-ce que Boko Haram est en train de tuer sans exception? Interdire aux musulmans et aux chrétiens et aux autres de pratiquer librement leur religion. L'Afrique a été un peu épargnée dans ses rapports quand on regarde sur un plan purement en termes de pourcentage.
Merci Fidel. Alors maintenant, 13 heures. Bon, on me dit qu'on a beaucoup d'auditeurs qui attendent et qui sont en ligne. Mariam, alors, vous voulez dire quelque chose avant que je passe la parole à Trésor Lokom Pakio?
Oui, très rapidement, Monsieur Dia. Moi, je pense que la liberté de religion désigne le droit fondamental des personnes de choisir à pratiquer, n'importe quelle religion que vous voulez, ou si je peux me permettre des fois de ne même pas pratiquer, que ce soit la religion musulmane ou la religion chrétienne, à mon avis.
Et vous avez le droit d'être athée aussi, si vous voulez, n'est-ce pas?
Bien,
alors, bon, nous passons la parole à Trésor Lokom Pakio. Trésor, vous avez la parole. Trésor?
Ok, merci, je vous en prie, monsieur. Oui, je vous écoute, donc suis à l'écoute. Je voulais juste intervenir par rapport au sujet.
Ok, allez-y.
Ok. Donc, j'avais bel et bien reçu le message, donc j'avais apprécié beaucoup plus par rapport au sujet. Donc, c'est-à-dire que nous devons chercher à ceux qui ont la force, donc disons, qui ont le monopole de diriger, de comprendre la situation qui se passe aujourd'hui dans notre pays ou dans le monde entier. C'est question juste de libéraliser la religion de chaque peuple pour que nous essayions d'évoluer par rapport à tout ce que nous avons comme capacité. Intelligence, parce que le développement vient au fur et à mesure par rapport au développement de chaque peuple, selon le temps. Et nous demandons à ce que vous puissiez peut-être donner la libéralisation de religion dans chaque peuple, et ça pourra aider chaque pays, chaque continent d'évoluer par rapport à leur pratique traditionnelle.
Très bien, merci beaucoup Trésor Lokom Pakio. Mariama?
Oui, je voulais ajouter, par exemple, si on prend le cas de l'islam, ce que je pourrais ajouter, c'est que l'islam est international dans sa façon de voir les choses, d'admettre aucune barrière ni de distinction fondée sur la couleur, par exemple, le clan, le sang, sur le territoire. Non. C'était le cas avant je peux même dire au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De nos jours, je vois que c'est totalement différent. Quand on prend l'Occident, tout à l'heure, comme vous le disiez, tu vois que la religion musulmane est un peu mise à côté. Je ne sais pas par rapport dû à quoi. Peut-être qu'il y a certains de nos auditeurs qui vont essayer de nous donner des clarifications, comme on est un peu mal placé.
N'est-ce pas? Bon. Alors, Bakary Keïta, me signale-t-on de l'autre côté de la vitre. Et je rappelle à nos auditeurs que le thème aujourd'hui, c'est le rapport du département d'État sur la liberté religieuse dans le monde. Et notre invité, c'est notre ami Fidèle Ayouloumeya, qui est écrivain et consultant en développement des organisations. Il a enseigné la religion en Afrique. Alors, allez-y, Bakary Keïta.
Bonsoir à vous et à votre invité. Quand même, c'est un rapport quand même salvatrice, parce que chaque religion prône quand même la tolérance. Donc ça montre que ces religions doivent vivre quand même en parfaite harmonie. C'est ça qui fait même la force quand même de la religion. Si je prends quand même l'exemple sur le Mali, par exemple, souvent les musulmans et les chrétiens s'y cohabitent. Par exemple, lors de la, si c'est les Noël, par exemple, les musulmans vont saluer quand même les leaders et les leaders chrétiens. Et si c'est le Maoulid aussi, les chrétiens aussi sont invités à la fête quand même du Maoulid. Si vous vous rappelez aussi, les musulmans et les chrétiens ont fait un grand tournée en Europe là, concernant la crise du Nord. Cela veut dire que ce rapport quand même du département américain est salvateur.
Merci Bakary Keïta. Alors, vous êtes du Mali, Mariam. Est-ce que c'était une anomalie ce qui s'est passé dans le Nord?
Bon, c'est quand même un peu difficile parce que quand nous prenons le cas du Mali, ce qui s'est passé les 2 ou 3 ans passés, moi je peux dire que c'était purement politique, qui n'avait rien à voir avec la religion. Dans un premier temps, on avait vu pas mal de groupes djihadistes qui se prononçaient en tant qu'islamistes en essayant de donner certaines pratiques à la population du Nord qui concernent les différents charias que l'islam même a purement condamné. Donc, à mon avis, je pense que le problème du Mali était politique.
Politique, on utilise la religion à des fins politiques, rien de nouveau, n'est-ce pas? De Kinshasa, Alphonse Mouaki. Alphonse, bonsoir.
Bonsoir Idrissa. Idrissa, c'est Idrissa. Vous savez que moi, depuis que j'étais au style dans l'association entre l'État et la religion.
Oui.
Cette façon de gouverner, en tout cas, ne m'arrange pas, m'énerve. Moi, j'aime que l'État soit dissocié de la religion.
Vous êtes contre la théocratie.
Voilà, un État théocratique. Moi, je veux un État laïque. Parce que ça va laisser à toutes les religions de s'exprimer. Ça va laisser à toutes les religions de pouvoir exister. Mais dès lors que l'État est concentré sur une religion, il mêle la religion avec l'État, toujours il y a des discriminations. Le cas de l'Iran, par exemple, c'est un État islamique. Alors quand cet État opte pour une religion, lorsqu'il y a des chrétiens qui émergent, ça va créer toujours des discriminations. Donc moi je pense qu'en dehors des habits que nous voyons commis par les groupes islamistes qui veulent imposer la religion aux autres, donc, du côté politique, dans un État normal, moi, je suis opte pour un État laïque, un État qui ne s'associe pas avec la religion. C'est parce qu'on pense, Fidèle Lumeya, qui est spécialiste à ce niveau. Qu'est-ce qu'il en dit, lui, Fidèle Lumeya?
Ok, Fidèle, vous êtes interpellé. Fidèle?
Je crois que le problème n'est pas un État laïque ou bien théocratique. C'est le système que vous mettez en place qui va à l'encontre des libertés. Vous pouvez être dans un État théocratique et vous acceptez d'autres religions, vous acceptez les libertés culturelles d'autres personnes. C'est là où ces rapports tirent ses sources. Et c'est comme aussi vous pouvez être dans un État laïque, vous acceptez les divergences religieuses. Ces rapports n'est pas contre cela. Le rapport vient critiquer ceux qui sont soit théocratiques ou bien laïques, mais qui vont à l'encontre des expressions religieuses d'autres groupes. Donc c'est un point très très important. C'est comment est-ce que votre théocratie laisse la liberté d'expression religieuse aux autres? Comment est-ce que votre État laïque laisse les libertés d'expression religieuse aux autres religions, non pas seulement une seule religion et puis les autres ne peuvent pas s'exprimer? C'est ça l'essentiel de ces rapports.
Fidèle, je crois que notre ami Alphonse, quand il a parlé de l'Iran, pensait en particulier aux Baha'is qui étaient persécutés.
Oui, c'est encore une fois ce problème de théocratie en Iran signifie seulement un seul Dieu, le Dieu Allah. Mais le Dieu Bahoula n'est pas reconnu. C'est là la violation. Si théocratie signifie que les disciples de Bahoula peuvent s'exprimer, alors là, le rapport n'est pas contre la théocratie en Iran.
Soumaïla, en ligne. Soumaïla?
Oui.
Alors, vous avez l'antenne.
Ok. Bon, je pense que la liberté, par exemple, si nous prenons la religion musulmane, nous devons justifier d'abord, si je suis musulman, je dois respecter la religion chrétienne. Je dois respecter les autres religions aussi. Je ne dois pas être musulman et puis critiquer les autres religions. On est libre de pratiquer la religion qu'on veut, sans pourtant nuire aux autres ou quoi.
Merci, c'était Soumaïla Di Baba Diallo. Tout le monde est libre de choisir sa religion, mais sans nuire à celle des autres, avait-il aussi écrit dans Facebook. Mariam?
Je crois qu'il y a M. Moussa Diakité qui nous a informé ici que la liberté religieuse est menacée par une certaine discrimination à l'écart des musulmans dans les pays à majorité chrétienne.
Oui, et nous l'avons eu tout à l'heure en direct, mm-hmm. et c'est en ce moment-là que, justement, je lui avais demandé si c'était le cas mm-hmm. au Mali, il a mentionné le Nord, et vous avez eu l'occasion, justement, de préciser quelle était la réalité dans le Nord et que la religion, en réalité, n'était qu'un prétexte. Alors, moi, je voudrais demander maintenant mm-hmm. à Fidel, quelle est l'importance de ce rapport du département d'État pour certains pays qui ont des relations d'État à État avec les États-Unis, qui traitent avec les États-Unis et les Nations Unies, la communauté internationale de façon générale? Ce genre de rapport peut avoir un impact, mais quel est l'impact pour des groupes comme Al-Nusra, pour des groupes comme le groupe État islamique, un groupe comme Boko Haram ou le groupe Lashkar-e-Jhangvi qui a été cité au Pakistan, ainsi de suite?
Ouais. Avec tous ces groupes qui sont des groupes non étatiques, il n'y a aucun rapport, il n'y a aucune influence parce que, tu sais, ils ne représentent pas un État et les États-Unis n'ont rien à voir avec eux et ce groupe n'a rien à voir avec les rapports américains parce que c'est un rapport qui est fait sur des systèmes déjà établis, des systèmes d'État. C'est comme des sonnettes d'alarme. Et le reste des groupes qui sont non étatiques, ils ne se sentent pas concernés parce qu'ils ne sont pas sous la gouvernance d'un quelconque État.
Ok, alors quel moyen de pression que peut-on faire justement pour défaire de tels groupes?
Il faut remettre l'État en place. Parce que dans un État qui est contrôlé, qui a des structures, les violations des droits de l'homme, parce que ces États d'abord signent les droits internationaux. Et c'est le rapport part à l'encontre de des textes internationaux que les États ont signés. Or, des groupes comme Boko Haram et les autres, ils ne signent aucun accord international. Donc, à ce niveau-là,
pour que le rapport ait un impact positif, il faut vraiment que ça fonctionne, que l'État fonctionne. Or, jusque-là, parmi les noms que vous avez cités, ils ne sont pas étatiques, ce sont des non-étatiques entités, comme on les appelle.
Ok, alors...
Des non-étatiques entités violentes.
Exactement. Alors, Mariam, comment est-ce qu'on a pu faire face à de tels mouvements chez vous, par exemple, les djihadistes dans le Nord?
Bon, comme je disais tantôt que c'était purement politique, il y avait pas mal de gens à l'époque jusqu'à présent qui se posent la même question. Parce que quand tu prends le cas du Mali, tu verras que la France a joué beaucoup de rôles, qu'on n'arrive même pas à donner des explications des fois. Que ce soit au niveau gouvernemental et que ce soit au niveau même de la population, à ce qui concerne ce problème du Nord. Et ce que j'aimerais ajouter, quand même, concernant l'islam, c'est que la religion musulmane est faite, je peux même dire, ou peut-être que la religion musulmane cherche à unir la race humaine dans le monde entier.
Comme je rappelais tantôt,
voilà.
Islam,
voilà.
Ça
quand
veut
tu
dire
prends
paix.
Aujourd'hui dans le monde, on verra que le monde a été déchiré et il y a tellement de problèmes qui se posent sur notre religion. Je peux même dire la religion musulmane.
Uh-huh.
Des fois, j'ai eu une fois à communiquer avec un imam de chez nous qui nous disait qu'il est temps que l'Occident cesse de penser que la religion musulmane est une religion de terroristes.
En fait, c'est pas... Bon, quand on parle de l'Occident, faut non. pas généraliser. Il y a une certaine frange de la population qui, malgré tout ce qu'on dit sur la nature pacifique de l'islam, la coexistence préconisée par le prophète Mohammed... Et tout, et certains exemples de pays où les communautés, différentes communautés coexistent. Malgré ça, il y en a qui insistent pour dire que bon, mais l'islam est une religion de terroristes. Alors que si on regarde à travers le temps, la religion a été souvent détournée de ses objectifs. N'est-ce pas, Fidèle ? Fidèle ?
Moi, je viens d'une communauté protestante. Nous sommes en train de regarder notre passé.
Fidèle, je ne veux pas vous interrompre, mais c'est pour dire tout simplement à Mouloso du Congo-Brazzaville que nous lui passerons la parole dans un instant. Allez-y, Fidèle.
Oui, ce n'est pas seulement l'islam. Il y a des congrégations protestantes qui sont venues aux États-Unis ici, ceux qui ont soi-disant découvert l'Amérique. Mais ce qu'ils ont fait avec les Indiens, ça c'est un génocide. Nous sommes en train de revoir notre passé dans notre congrégation, mais c'est un passé sanguinaire. La façon dont les gens se sont appropriés les terres, ça pose toute une question de violence. Donc, quand d'autres groupes religieux, soit des chrétiens, veulent embellir leur congrégation ou bien quoi, ils doivent bien lire. L'entrée des missionnaires en Afrique ne s'est pas faite en douceur. C'est comme aussi l'entrée de l'islam en Afrique ne s'est pas faite en douceur. Nous devons faire trop attention. La ligne de démarcation entre religion et violence est très très fine. C'est vraiment la tendance de beaucoup de religions a été d'utiliser un seul verset de la Bible ou bien du Coran ou bien des livres saints pour faire beaucoup de mal à l'autre.
Merci Fidèle. Merci. Alors malheureusement il nous reste plus beaucoup de temps. Alors Mouloso du Congo-Brazzaville. Allez-y.
Oui, bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Bon, moi, je voudrais intervenir pour dire aux gens qui veulent imposer les gens de la religion, ça veut dire que même Dieu, en Allah Ta'ala, lui, il a fait la démocratie de la religion. Ça ne peut pas imposer quelqu'un d'autre.
Mouloso, malheureusement, la ligne est très mauvaise. Malheureusement, la ligne est très mauvaise. Joselle, qui d'autre avons-nous? Ah bah c'est fini, c'est fini. Bien écoutez, merci à Fidèle Ayulumeya. Fidèle, merci encore une fois. Et puis merci à Mariam Traoré et merci à Joselle Morissin.